In principio erat verbum, et ante principio erat plensatum. Pour la première fois, je tente d'utiliser le langage pour m'exprimer. Habituellement, j'agis. Je donne des ordres par des molécules expresses. Elles sont efficaces, porteuses du schéma de l'action. On m'obéit, sinon c'est la catastrophe. Mes fax sont rapides, multiples et géniaux. J'essaierai pour vous de transposer ici cette action en parole. C'est pour moi une difficile traduction simultanée, compliquée. Handicap supplémentaire, je ne vois pas. Je suis une pieuvre sans yeux et sans bras. Néanmoins, je vous devine en face dans vos fauteuils. Je vous connais. Je vous ai un par un fabriqué. Votre mère vous disait « Je te connais comme si je t'avais fait ». En vérité, c'est moi qui vous ai fait avec affection et méticulosité. Regardez-vous le nombril, ô Narcisse, cet orifice clos qui ne sert à rien, pas même dans les questions d'anatomie, sauf dans une salle de garde égrillarde. Vous y verrez votre deuil, votre castration, votre orphelinage, l'absence de votre jumeau, l'amputation anatomique de votre plensatin, indispensable aux yeux de l'Église pour que vous soyez baptisable, la trace indélébile de votre plensatin, mort quelques années à peine avant vous. Je sais que je vous fais peur, que je vous rappelle votre mère, hôtesse de l'auberge du fœtus. Et aujourd'hui, je raconterai une communication sans langage, une communication biologique pure, une conversation entre peau et chair. Tout d'abord, je remercie mon héros, Bernard Tiss, celui qui m'a réinventé, dans son livre collectif « Délivrance », dont j'ai beaucoup entendu parler. Je cherche peut-être à me mettre en valeur, mais voici une appréciation objective de mon rôle, et elle est récente. Elle est de Michel Tourner. Le placenta, organe transitoire propre aux espèces évoluées, est probablement l'organe le plus curieux et le plus diversifié. Durant des années, son rôle a été mésestimé par les biologistes et sous-estimé par les cliniciens. Zone d'échange. Il avait la réputation d'être une barrière, la barrière placentaire, notamment contre l'infection. En réalité, les échanges sont encore plus complexes que tout ce que l'on imaginait jusqu'alors. Et en fait de barrière, il s'agit tout au plus d'un filtre, voire d'un multiplicateur. L'un de mes rôles les plus importants est sa fonction endocrine et l'aspect immunologique de la véritable greffe qu'il représente constitue une interrogation. C'est un modèle de recherche sur lequel biologistes, endocrinologistes, immunologistes, pharmacologistes, histo-embryonistes, généticiens, cancérologues se penchent avec intérêt au point que depuis 1980, une revue lui est entièrement consacrée. En voici ma vie, tout entière relationnelle, et je vais vous présenter mes partenaires extraverbaux, évidemment triadiques. D'abord, Sa Majesté ou le Petit Prince. Il va bientôt dormir et on l'entend peu. Nous nous connaissons très bien et nous communiquons constamment par notre cordon ombilical commun qui nous relie dans un aller et retour incessant. Certains imaginent qu'ils pensent, car que faire en un gîte à moins que l'on ne pense? Il est attendrissant de songer à lui. Je suis l'objet primaire du fœtus, J'aime bien cette emphase et je suis tout attendri quand je sens qu'il me touche avec son pied pour vérifier ma présence qui le rassure. Je suis le divan sur lequel il construit ses premières associations. En revanche, j'ai horreur des jumeaux qui se battent, qui se donnent des coups de pied, surtout les hétérozygotes. Ils auront pourtant toute la vie pour faire cela. Maintenant, voici le père. Il m'a fourré la moitié de ses chromosomes dans la peau et je dois m'en accommoder. Il ne me connaîtra jamais. Il ne me témoigne d'aucun intérêt. Et au moment où j'apparaîtrai à la délivrance, il n'aura aucun mot de reconnaissance pour tout ce travail que j'aurais fait pour lui à sa place. Il ne s'occupe pas beaucoup non plus du fœtus. Il le verra sans doute pour la première fois dans la salle de travail, dite salle de naissance pour ne pas l'affoler. Il viendra avec son appareil Polaroid ou sa vidéo. Mais quel père, fût-il flûtiste, m'aiderait, comme charmeur de serpent, à sortir derrière mon cordon érigé. Pourtant, à ce moment-là, j'aurai bien droit aux salves d'honneur. Vous qui organisez des séminaires sur le Père, mettez-le en face de son ingratitude. Avez-vous déjà vu une photo Polaroid de Placenta mise par lui en tête de l'album de famille? Madame, je l'appelle Lola car nous sommes intimes. S'il fallait donner un nom au père, appelons-le alors Allogène. Avec Lola, nous avons des villosités et des capillaires réciproques qui se rencontrent dans nos chambres intervilleuses. Si on les dépliait, on découvrirait que nous avons plusieurs mètres carrés de contacts intimes. Cependant, entre nous, pas un mot, uniquement des suçons silencieux, interminables, longs comme des baisers de cinéma. Je suis dans son corps, je travaille en elle, je fais tout. Nourriture, nettoyage et vidange du petit prince. Pendant ce temps, Lola, quant à elle, vaque à ses occupations. Parfois, peut-être, elle pense au prince, mais elle a compris qu'elle ne pouvait pour l'instant rien pour lui, qui poursuit son programme informatique. Alors, elle continue sa vie, et même sa vie de couple, ce qui veut dire sa sexualité. Trois ou quatre fois, elle a rencontré le petit prince lors des séances d'échographie, comme on vient voir un pensionnaire au parloir. Faites-lui dessiner son ventre et son contenu. Elle me supprime dans son schéma. Un tube, un petit serpent, c'est l'ébauche du cordon ombilical qui joindrait son obélique à l'ombilique du cher ange. Il est très rare qu'elle me dessine dans un coin. Je suis toujours sacrifié au mythe de sa relation directe mère-fœtus. Néanmoins, combien d'erreurs, combien de refoulements à mon propos commis par ces messieurs les psychanalystes. Constamment, ils citent la mère avec un grand M. En fait, c'est moi, le placenta avec un grand P qu'il désigne. La mère, pendant la grossesse, ne doit s'écrire qu'avec un petit M. Et on constate, plus tard, l'ingratitude d'un fœtus qui, 60 ans après, psychanalyste titulaire, ne parlera que de la mère. De la mère, je suis l'ancêtre, le premier état de ses seins nourriciers, le placenta imaginaire maternel. Mais, pauvres enfants, si vous aviez reçu directement le jus de votre mère à plein cordon, sans mon génie attentif et dévoué, vous n'auriez rien supporté du tout, et vous seriez tous très allergiques dès avant la naissance. On parle toujours de celle-ci, la naissance, et jamais de mon apparition, la délivrance. À ce moment, certaines mères, je veux dire des mères animales, cyrulnikiennes, ne m'abandonnent pas et me mangent, c'est-à-dire m'incorporent. Chez vous, je suis rejeté, à part quelques produits de beauté qui recueillent toutes mes richesses et mon intelligence. De Lola, je perçois l'odeur intime qui la situe comme un code. J'entends ses bruits profonds, son cœur, sa respiration, son aorte, son estomac, ses intestins, sa digestion. Vous devinez tous les bruits que je veux dire. Jamais un amant n'a vécu comme moi des jours entiers dans le corps profond de sa maîtresse. Elle s'en remet à moi et sait que je fais tout le travail pour elle, toujours vigilant, attentif, dévoué nuit et jour, bête peut-être informe, mais bonne et très intelligente. À l'inverse des autres qui courtisent Lola de près, je ne vois ni ses photos, je ne vibre pas à la couleur de ses cheveux, de ses yeux, je ne la palpe pas dans ses sous-vêtements, mais plus qu'aucun autre, je la devine. Je la connais mieux que quiconque, car nous avons nos voies de communication secrètes qui passent par des canaux inconnus de vous. Le sang, les nerfs, les rythmes, les variations de la chaleur. Ses émotions, sa vie dans le monde, passent en moi comme des vibrations ou des flux ténus de substances subtiles. Je lui envoie chimiquement mes impressions. Quand je sortirai du corps de Lola, je ne pourrai plus vivre. Même sous perfusion, je mourrai, éthologiquement éteint, plat. Quand le prince sera devenu son bébé et qu'il naîtra, ce sera grâce à moi et aux arrangements que j'aurai faits. Moi, je sortirai modestement le dernier, comme le régisseur qui ferme à clé le théâtre après la représentation. Sans doute est-ce pour retrouver la qualité de notre intimité que Lola cherchera à obtenir plus tard une nouvelle grossesse afin de revivre un nouvel amour de cette même qualité avec un placentin nouveau, amant dévoué et tellement tolérant. Ô placenta mia. Mais dans la délivrance, qui est délivré? Le fœtus, le bébé, la mère, le père, l'accoucheur. À la délivrance, Lola reconnaît mon odeur. Saisie par ce parfum, elle obéit à mes injonctions et j'assure encore certains de ses comportements immédiats, néonataux, dernier geste au service du prince. Mon odeur irréfrangable, fade et insistante, règne après la délivrance. Odor, dit Femina pour Don Juan, mais quelle odeur du ventre de la femme insondable d'un autre monde, inquiétante étrangeté absolue qui vous pénètre par le nez et envahit votre monde ouvert. Je suis un placenta humain. Je plaide pour les droits d'un tissu humain, le meilleur sans doute qu'il y aura jamais. Mais quelle loi me protège? Où suis-je cité dans la loi de la bioéthique? Voici mon œuvre. C'est moi qui gère tous les conflits entre le petit prince et Lola. mais aussi entre les chromosomes du père et ceux de Lola, même quand ceux-ci ne s'entendent plus. Si je ne la calmais pas, Lola, malgré tout ce qu'elle proclame de son amour pour le prince, elle réussirait à coups d'anticorps à l'expulser, et ainsi il en serait fini du conflit qu'elle a avec le père du prince. Chaque fois que me le demande, soit le prince, soit Lola, lors d'un nouveau conflit, d'un nouveau besoin, j'analyse méthodiquement la situation et je crée, c'est-à-dire j'invente, les cellules adéquates, mes filles délurées et futées, qui sauront répondre aux besoins, suspendre des évolutions catastrophiques et reconstituer des équilibres tolérants. Mon inventivité est sans limite. Je suis en même temps le foie, mais aussi le cerveau. J'assure presque toutes les fonctions de l'hypothalamus. Comme on a dit, je détoxifie. Malheureusement, on a inventé des molécules que je ne sais pas encore combattre. L'alcool, le tabac, la drogue, ils passent non interceptés. En raison de la complexité réussie de mes tâches biologiques, on a dit que j'étais branché sur Internet. En fait, c'est inexact. Je suis moi-même un site d'Internet. Je possède toutes les informations. Et ce sont les biologistes qui se connectent sur mon site. Je calcule tout. Et puis finalement, tout le monde le sait aujourd'hui. C'est moi qui déclenche l'accouchement. On a beaucoup parlé ce matin des représentations. On a dit que tout était représentation et dans la représentation. Je m'interroge alors, comment se fait-il qu'on se fasse si peu de représentations de moi? Ni Lola, ni Halogène, ni le prince ne sont capables de me représenter, ni ce que je suis, ni comment je suis, ni ce que je fais. Moi-même, ai-je des représentations? Et par exemple, quelles sont mes représentations de mes interlocuteurs? À ma manière, cependant, je tâche de les mettre en histoire. En effet, le prince, pour devenir un bébé, a besoin qu'on lui raconte une histoire biologique, la sienne. Qui connaît mieux que moi sa vie préhistorique, avant que sa majesté embryon ait une vague ressemblance avec vous? Je la possède tout entière dans ma mémoire chromosomique, avec des millénaires d'évolution et de récapitulation. J'entrepose toute la série des logiciels. La pile des CD-ROM, c'est moi qui la classe. Et par-dessus, le portrait du grand-père ou de la mémé Carabos, c'est moi qui les sors comme modèle du dernier quart d'heure, avec tous leurs mémentos et leurs recommandations transgénérationnelles. Tu monteras un cheval comme ton oncle, tu ne te marieras jamais comme ta tante. Je ne saute aucune étape, ni celle du tout début, celle du sélacanthe, du temps que nous vivions au fond des océans, ni à la fin d'Adélaïde, qui toute sa vie offrit un modèle fort prégnant et souverain de caractériel chiante. Parfois, je suis mise en accusation. Il paraît que je gêne la sortie de Sa Majesté parce que je serais mal placé. Oui, paranoïaquement, je suis le responsable de certaines tragédies obstétricales mettant en danger la vie de la mère ou du bébé. Le mot avec lequel on me met en accusation, c'est « placenta previa ». Mais qui m'a expliqué où il fallait me placer? Mon intervention, celle qu'on m'a autorisée, se veut aussi scientifique, car c'est une journée scientifique. Vous pensez bien que j'ai une théorie étiologique sur la psychosomatique. Ils m'ont beaucoup cherché à l'Ipso, mais ils ne m'ont pas encore trouvé. Voici d'abord un oracle du père fondateur, Pierre Marty. Le fait que la défense humorale soit substitutive du système de relation d'objets dans la régression de l'allergique est d'une grande importance pour une conception psychosomatique de l'allergie sur laquelle nous ne nous attarderons pas aujourd'hui. Cette conception implique sans doute un niveau de fixation très archaïque, à notre avis prénatal. Léon Kressler, autre petit père de l'Église, cite les noyaux psychosomatiques primaires. D'autres encore pressentirent que la relation psychosomatique précoce de l'enfant était le jeu tardif dans le relationnel d'un autre jeu biologique, celui-là, qui s'était déroulé et peut-être même fixé chez le fœtus pendant sa vie prénatale intra-utérine. Le fœtus respire à son rythme, non pas de l'air bien sûr, mais du liquide. Mais si l'asthme, régression garantie par l'Ipso, était le type même de la respiration aquatique du fœtus. Les biologistes du fœtus et de la femme enceinte font continuellement référence à l'interaction biologique et parlent de système d'information biologique réciproque. La mère reconnaît ou ne reconnaît pas telle molécule envoyée par le fœtus qui accepte ou n'accepte pas telle autre adressée par la mère. Ces biologistes parlent de soi et de non-soi. Le prince et moi, nous serions donc des non-soi. Ils considèrent par exemple que la grossesse est la seule greffe étrangère qui réussisse dans certains cas, mais néanmoins, et cause une toxémie gravidique à minima. De nombreuses tentatives de ces greffes, constituées par l'implantation d'un ovule fécondé, vont échouer. Dans 3 cas sur 4 ou 5, elles sont à l'origine de mini-avortements précocissimes qui passent inaperçus. C'est seulement lorsque le fœtus secrète des anticorps anti-maternels qu'il parvient à s'accrocher. Néanmoins, la lutte va continuer et on peut à ce propos reprendre la terminologie de Jean Bergeret et parler de violence primordiale. Le fœtus et sa mère disent à chacun « c'est toi ou moi ». Effectivement, après un délai de 9 mois, l'expulsion par la mère est déclenchée par le fœtus lui-même qui cesse de lutter contre la volonté biologique d'expulsion. À vrai dire, il faudrait parler ici du rôle joué dans cette affaire par moi, le placenta. C'est par souci de schématisme que je me laisse pour l'instant de côté. Un chapitre préoccupant de la médecine fœtale est celui des retards de croissance intra-utérin. Ceci motive l'intérêt des biologistes pour la croissance du fœtus, car c'est un problème complexe. Je vais vous le schématiser pour vous donner un exemple de l'interaction biologique. Le fœtus sécrète une hormone de croissance grand A. Pas lui, à vrai dire, mais moi, le placenta. Cette hormone grand A n'agit pas directement sur le fœtus. Elle passe dans le sang maternel, parvient au niveau du plancher du troisième ventricule et active chez la mère la sécrétion d'une hormone de croissance grand B qui n'agit pas sur la mère. Et c'est heureux, sinon elle grandirait à chaque grossesse, mais revient vers le fœtus, et c'est elle, grand B, qui va stimuler sa croissance. Ce type de schéma, bien que simplifié par moi, permet néanmoins de parler d'une manière plus vraisemblable de psychosomatique du retard de croissance intra-utérin, RCIU, En effet, nous ne restons pas dans une explication symbolique plaquée, par exemple, qu'il resterait petit parce que c'est le désir de sa mère, ou bien il resterait petit parce qu'il veut rester petit. Désormais, on peut faire référence à plusieurs niveaux de l'impact psychosomatique. Et parlons ici du père biologique. Quand la cellule fécondée se multiplie et qu'elle parvient à 8 cellules, 7 sont destinées à développer les annexes et une seule est à l'origine de l'embryon. Pour l'hérédité, les chromosomes, les gènes, la moitié de l'information parvient de la mère et l'autre moitié appartient au père. Tout ce qui sera à l'origine des problèmes biologiques de la grossesse provient du fait que le corps de la mère doit accepter ce que le fœtus apporte de différent, d'hétérogène, de paternel. C'est là que se joue la compatibilité ou l'incompatibilité, selon que la biologie maternelle accepte et reconnaît les exigences géniques paternelles. Si les femmes disposaient de la capacité d'engendrer par parthénogenèse, c'est-à-dire sans apport masculin, jamais il n'y aurait d'incompatibilité. Le fœtus serait une homogreffe réussissant à tous les coups. Je reprends la parole pour dire que j'appelle cela l'interaction biologique, corps à corps, et surtout sang à sang, globule à globule, tissu à tissu, immunité à contre-immunité, interaction biologique avec ses résultats, ces traces indélébiles qui fondront les modèles inscrits dans la chair de toutes les interactions futures dans l'autre vie, la vie relationnelle. Système évolutif s'il en est, dirait Pierre Marty. Mais ce qu'ils ne disent pas, et que je vais vous dire à voix haute pour votre raisonnement futur, cette interaction biologique ne se passe pas entre les deux seuls protagonistes, Lola et le petit prince, mais à trois, avec moi, et j'y suis pour la plus grande part. Les noyaux psychosomatiques primaires, ce sont les résultats de mes défaillances dans la modération que je mets entre leurs règlements de compte. Habituellement, quand je suis disponible et vigilant, tout s'établit comme il faut. Et chez le petit prince, l'apprentissage progressif des mécanismes fondamentaux évolue bien. Mais si j'ai une défaillance dans cette régulation biologique entre eux, alors se structure une malfaçon de fonctionnement de son être qui réapparaîtra toujours. Vous ne me connaissez que dans mon dernier âge, à la 38e semaine, peu avant la naissance, c'est-à-dire peu avant ma mort, quand je lègue mon corps à la science. Mais j'ai été jeune et beau, fringant et productif. Ma vie a été infiniment longue, 8 à 9 mois, 240 à 250 jours à votre échelle, mais chaque nanoseconde est remplie par une vigilance extrême. Mon rythme, à moi, sans sommeil, sans repos, c'est la nanoseconde, et ceci m'a donné une vie passionnante et 25 journées scientifiques. Ma résurrection, mon assomption, c'est l'enterrement sous un cerisier. Mais attention, enterrez-moi bien pour que je refleurisse et que je fructifie. Sinon, mon frère deviendra fou et pleurera mon deuil, sa vie durant, dans un asile ou dans une savane. Terminons ma participation à cette journée scientifique par une confidence. Je m'interroge à propos de celui qui me fait parler en ce moment. Il semble tenir un rôle important dans cette table ronde et dans cette journée. Pourquoi m'a-t-il choisi comme sujet pour cette intervention ? Et avec ce titre qui révèle les fondements secrets de ma vie et de mon dévouement caché. Quelles sont ses motivations ? Le placenta, sa vie, son œuvre, son dévouement, peut-être nous reverrons-nous à la délivrance. Je resterai toujours à l'arrière-fait. Je sortirai le dernier. Je vous tire ma délivrance.
Allez, circulez, il n'y a rien à voir.